Bonjour. Donc c'est la page 753 des Bibles blanches. Chapitre 15, versets 1 à 20. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts.
Merci Christelle. On va prier d'abord, prions. Merci pour cette parole de l'Évangile, cette parole qui peut nous sauver, qui peut nous transformer, qui est vivante, qui est puissante, qui est la puissance de quiconque croit, la puissance du salut pour quiconque croit. Merci Seigneur pour elle. Et Père, nous pouvons te demander ce matin de nous parler, de travailler parmi nous ce matin par cette parole, au moyen de l'Esprit. Que ton Esprit vienne à notre aide pour que nous puissions comprendre et appliquer cette parole. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite de très, donc une très joyeuse Pâques. Cette période de l'année, c'est vraiment une période plutôt joyeuse. C'est le printemps, c'est la fin de l'hiver. C'est le début d'un nouveau cycle de vie, si on veut. C'est très à propos que Pâques tombe à ce moment printanier de l'année. En tout cas, dans l'hémisphère du Nord, tant pis pour les Australiens au sud qui célèbrent Pâques au début de l'automne, mais nous, en fait, on l'a quand même au bon moment. Ces dernières semaines, nous avons réfléchi ensemble aux questions essentielles de la vie et de la foi. On a parlé de l'existence de Dieu, on a parlé de la souffrance. La semaine dernière, on a parlé de la science. Qui nous a parlé du psaume 19 ? Et comme il se doit un jour de Pâques, on va parler de la résurrection de Jésus. On va réfléchir au sens de cet événement-là. Pour beaucoup ici ce matin, la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui est au cœur de votre foi. À chaque fois qu'on parle de Jésus au présent, chaque fois qu'on prie le Père au nom du Fils, à chaque fois qu'on parle de ce que Dieu a accompli en Jésus à la croix, on est en train de parler du Seigneur ressuscité, de Jésus qui est vivant à la droite du Père. Cet événement est au cœur de votre foi, de votre espérance. Ce matin, c'est mon espoir que votre foi sera affermie au fur et à mesure que nous abordons ce thème de la résurrection. Alors pour d'autres, vous croyez peut-être ne serait-ce que vaguement en Jésus. Vous ne savez pas trop quoi penser de la résurrection, de sa pertinence ou même son bien fondé. Peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous n'avez pas encore fait un engagement de foi. Donc cette question est d'une grande importance. Pour d'autres encore, vous êtes en train de réfléchir de près ou de loin à la foi, à la foi chrétienne en particulier. Vous savez que cette question fait partie des questions qu'il faut aborder. Vous êtes peut-être sceptique par rapport au bien fondé de cet événement. En tout cas, on va revoir cette question ce matin. Alors, dans tout le chapitre 15 de cette première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, en Grèce, Paul parle de ce sujet, de la résurrection. Et manifestement, il y en avait parmi eux qui mettaient en cause un peu cette doctrine centrale de l'Évangile, où ils avaient un peu de mal avec cette doctrine, surtout l'idée que les chrétiens allaient ressusciter aussi physiquement, corporellement. Alors, à notre époque, il y en a qui ne veulent pas accepter la nature historique de la résurrection corporelle. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre la notion de miracle. Ils se disent que, puisque les miracles ne peuvent pas avoir lieu, scientifiquement parlant, la résurrection ne peut avoir eu lieu non plus. Donc ainsi va leur logique. C'est un refus a priori de la possibilité même de cet événement, quelles que soient les preuves historiques. Alors, à l'époque de Paul, je ne pense pas que ce soit la logique ou le problème des lecteurs. Sans doute, ce qui est un peu à l'arrière-plan du questionnement, les questions des lecteurs, c'est plutôt le fait qu'ils avaient une répugnance pour tout ce qui était physique, tout ce qui était physique par rapport à tout ce qui était spirituel. Comment croire à la résurrection des morts de manière corporelle ? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, plus propre de quoi simplement que les chrétiens vont aller au ciel de manière spirituelle sans ressusciter corporellement? Pourquoi s'acharner à penser que le monde physique a de la valeur? Et pour y répondre, Paul va aborder cette question de plusieurs manières. Nous allons nous pencher que sur les premiers 20 versets de ce chapitre. Et dans ces versets, il insiste sur l'importance de la résurrection corporelle, en affirmant de manière on ne peut plus claire que premièrement c'est une question de salut. La résurrection corporelle est importante. Il s'agit d'un message salvateur. Et deuxièmement, l'apôtre Paul va combattre corps et âme pour que chacun de nous voit et reconnaît que la résurrection de Jésus est un événement historiquement bien fondé et donc digne de foi. Et troisièmement, il va conclure à la fin de cette partie en nous montrant sa propre logique interne, aussi la sincérité de sa foi. Aussi en nous montrant que ce message est un message sincère. Commençons avec ce premier point. La résurrection est véritablement une question de salut personnel. On va passer beaucoup plus de temps sur cette question et évoquer plus brièvement les autres questions. Paul nous dit par là que la résurrection est absolument nécessaire si nous allons échapper au jugement de Dieu. Commence avec ce qui ne peut pas être autre chose qu'un avertissement très formel et solennel. Les versets 1 et 2 nous disent « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » En gros, Paul les exhorte à continuer à croire et à accepter la doctrine qu'il leur avait enseignée au début. Alors, ils n'utilisent pas le mot doctrine, mais le terme évangile. Traduisons assez souvent ce terme évangile par l'expression la bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est une nouvelle d'une grande ampleur, d'une ampleur qui change le monde. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'annonce à la télévision en 1989 comme quoi le mur du Berlin avait chuté? Alors, les plus jeunes parmi vous ne s'en souviennent pas, sans doute. C'était à la fois une bonne nouvelle et une nouvelle d'une grande ampleur. Alors, dans le même ordre d'idées, même si c'est peut-être sur un échelon beaucoup plus supérieur, l'Évangile est la nouvelle qui a tout changé dans le monde. Et Paul nous dit que c'est cette nouvelle, c'est la nouvelle elle-même qui peut nous sauver. En recevant cette nouvelle, ces lecteurs sont passés de la mort à la vie. Ce que Paul dit est très fort, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du salut, donc c'est un terme un peu religieux, peut-être pour ceux qui viennent régulièrement à l'église, ces termes religieux comme salut, à force de les entendre, ils perdent un peu la force. Le salut implique un danger, un grand danger. C'est le fait d'avoir été sauvé d'un grand danger. Et le danger auquel l'homme, tout homme, doit faire face est Dieu lui-même. On a tendance à penser que le danger est autre chose que Dieu, notre péché, la misère, nos problèmes. Mais en réalité, la chose la plus dangereuse qui soit, c'est de rencontrer Dieu, qui est vraiment saint, tel que nous sommes. C'est dangereux parce que nous ne sommes pas saints, loin de là. Et Dieu est saint et juste. Il ne tolère pas le mal. Alors, est-ce que ça vous arrive quand vous passez à la douane, si vous partez à l'étranger, quelque part, ça fait un peu peur, de sélectionner un douanier, ou peut-être dans la queue avec un policier, de sélectionner un douanier qui vous semble un peu plus sympa que les autres? Vous espérez entrer plus facilement ainsi. Mais Dieu est parfaitement juste. Il n'édulcore pas sa justice, si vous souriez. Il est net et équitable. Mais il est également amour. Il est plein de miséricorde. D'autres passages nous le disent haut et fort. Et ce passage nous le dit en expliquant son message. Ce message qui nous permet d'échapper à son jugement de manière juste, de manière équitable et permanente. Et ça, c'est le message de la bonne nouvelle. Paul donne un petit rappel dans ce passage du contenu de cette bonne nouvelle, que manifestement, certains lecteurs étaient tentés de mettre un peu de côté, de modifier ou de même jeter par-dessus bord, en faveur d'un autre message qu'ils auraient concocté eux-mêmes. Nous avons besoin de son rappel aussi. Personne n'est à l'abri de cette tentation de modifier, ne serait-ce qu'un peu l'Évangile. Je ne suis pas un pasteur qui a des décennies d'expérience, mais dans le peu d'années que j'ai dans le ministère, je commence à cerner où nous sommes tentés de changer quelque part, ou vaguement, ou juste un petit peu l'Évangile. Et on a besoin de ces rappels de l'essentiel de l'Évangile. Cet Évangile qui est d'une grande importance, parce qu'il nous sauve. Alors les versets 3 et 4 nous disent que le Christ, donc Christ ça veut dire simplement le roi que Dieu a oint, le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, c'est-à-dire selon le plan que Dieu avait annoncé des années auparavant de par ses prophètes, les prophètes juifs, on peut penser à tout l'Ancien Testament. Nous l'avons vu vendredi soir, lorsqu'on a parler de la mort de Jésus, le culte du Vendredi Saint. On a étudié un passage clé dans l'évangile de Marc qui montrait que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous libérer. Pour nous libérer de quoi, peut-être vous vous dites ? D'une dette. Je ne sais pas si vous avez des dettes. On devenait pasteur, je travaille dans une banque. Et dans mon service, on analysait des sociétés avant de leur accorder des prêts, des dettes géantes, des milliards de dollars pour racheter d'autres sociétés. C'était même difficile de concevoir un peu ces dettes parce qu'elles étaient énormes. Aussi, sur le plan un peu plus personnel, peut-être vous avez acheté une maison, un appartement. Vous avez pris un prêt immobilier sur 15 ou 20 ans. Et vous devez amortir la dette. Il faut la repayer, le capital et les intérêts. Et au début, la somme vous paraît impayable, tellement elle est grande. Mais petit à petit, vous repayez la dette. Mais Jésus nous libère d'une dette colossale que nous ne pourrions jamais repayer. C'est la dette de nos fautes. La Bible parle de péché. Tous les actes, toutes les pensées, toutes les paroles qui montrent notre souhait de vivre comme si Dieu n'existait pas, ou si nous étions nous-mêmes des dieux au-dessus de lui. C'est la dette de notre offense à son égard. Si vous offensez quelqu'un, vous avez l'impression qu'il faut faire des efforts pour être sympa avec la personne pendant un certain bout de temps, un peu pour effacer la dette, effacer l'offense. Mais notre offense à l'égard de Dieu est trop grande. Nos efforts ne valent absolument rien. Nos efforts sont vains. Alors, un des plus grands problèmes des hommes, des êtres humains, et que nous soyons chrétiens ou non, c'est que nous mésestimons l'ampleur de cette offense-là à l'égard de Dieu. Mais croyez-moi, elle est impayable. Jésus est mort à notre place pour payer une dette qu'il ne devait pas lui-même, pour que les gens comme nous puissent être libérés de notre dette, une dette que nous n'aurions jamais repayée nous-mêmes, amortie à nous-mêmes. Par sa mort à la croix, les péchés de tous ceux qui se fient à Jésus, qui se remettent à lui, sont entièrement remis, pardonnés. Nous sommes lavés. C'est une nouvelle époustouflante. Ensuite, le verset 4 nous dit que Jésus a été enseveli. Nous parlons ici des événements de Pâques. Jésus est bel et bien mort, et comme pour tout mort, il a dû être enseveli. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, parlent de cet événement. Ils parlent des témoins, des personnes qui l'ont vu, qui ont vu les gens qui l'ont enseveli. Et puis l'apôtre Paul parle de notre sujet de ce matin, la résurrection. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et ça fait partie du message salvateur. Alors comment ça marche? Si à la croix Jésus a payé la dette que nous ne pouvions jamais repayer, qu'est-ce que la résurrection ajoute à ce message? Comment est-ce qu'elle change la donne au juste? Pourquoi est-ce si important de croire à cette résurrection-là? Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le verset 17. L'argumentation de Paul a changé quelque peu, mais ici il veut nous montrer que la résurrection de Jésus est liée à la nôtre. Au verset 17, il nous dit « Or si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. » La résurrection, c'est la preuve que la dette a été pardonné une fois pour toutes. C'est la preuve que Dieu a vraiment accepté le sacrifice de Jésus, que sa mort était tout à fait suffisante pour satisfaire à la justice de Dieu. Jésus, l'homme parfait par excellence, a donné sa vie parfaite et a ainsi satisfait à la justice de Dieu pour tout temps. Alors, il y a une petite expression au verset 18, qui change tout aussi. Est-ce que vous voyez l'expression « en Christ » ? Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. C'est une petite expression, mais c'est vraiment la clé pour comprendre pourquoi la résurrection de Jésus est si importante. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus, qui se fient à lui, sont considérés comme étant en Christ, unis à Jésus, collés à Jésus. En théologie, nous parlons de l'union de la foi. Jésus devient notre représentant, et lorsque Dieu nous voit, il nous voit avec lui, en lui, de manière inséparable. Alors, à titre d'illustration, en tant que citoyen européen, je jouis de certains droits communautaires en France. Alors, je peux y travailler, donc je ne suis pas illégal, je vous rassure, je peux y vivre. Alors, de par son mariage avec moi, ma femme, qui n'est pas européenne, donc citoyenne des 13 colonies encore rebelles d'Amérique, elle peut quand même jouir des mêmes droits communautaires que moi. Et c'est l'union du mariage qui fait ça. Alors, l'analogie est très imparfaite. Je ne suis pas Jésus. Je suis un pire pécheur qu'elle. Et l'union européenne n'est pas la nouvelle création, donc loin de là. Donc, mais vous comprenez bien l'image. L'union avec Jésus, par la foi, confère à ceux qui se fient à lui les mêmes droits. Et cela veut dire que ce qui arrive à Jésus nous arrive aussi. Là où Jésus passe, ceux qui se fient à lui y passent aussi. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, ceux qui sont en lui, avec lui, collés à lui de manière inséparable, ils sont ressuscités avec lui aussi. Si Jésus était assis dans le tombeau, ceux qui avaient mis leur confiance en lui, ils seraient restés aussi. La foi serait inutile et vaine. Mais Jésus a vaincu la mort. C'est comme ça que Paul va terminer ce chapitre, donc tout à la fin du chapitre. Il va proclamer haut et fort sa victoire sur la mort. Il va crier « Détois la mort de la mort, la fin de la mort, dans la mort de Jésus et la renaissance de la vie dans sa résurrection. Ceux qui se fient à Jésus sont emportés avec lui dans cette victoire sur la mort et pour la vie. La dette de leur péché est pardonnée, payée, amortie, remise. La mort, la peine que nos péchés méritent, n'a plus de prise sur ceux qui se fient à Jésus. La mort, l'ennemi ultime, ne peut plus toucher ceux qui sont en Jésus. Elle a été mise de côté, rendue impuissante. Jésus a payé le prix fort, et Dieu qui voit son innocence, son obéissance, sa justice, l'a acquitté, l'a justifié. Dieu lui a donné raison. En le ressuscitant d'entre les morts, Dieu a déclaré haut et fort que son Fils avait toute son approbation. Et en nous fiant à Jésus, en croyant en lui, en croyant en le Dieu qui ressuscite les morts, qui a ressuscité Jésus, nous sommes collés à Jésus et nous passons de la mort à la vie. Le verset 20 nous dit ceci, jetez un coup d'œil sur le verset 20. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Et ce petit mot précédent est très important aussi. Littéralement, le mot grec évoque l'idée de prémisse, de premier fruit de la moisson. Jésus est le premier fruit de beaucoup de fruits, c'est-à-dire la résurrection physique corporelle de tous ceux qui ont mis la confiance en lui et qui vont mettre la confiance en lui. Jésus est le premier fruit de la nouvelle création. En parlant de la souffrance, il y a quelques semaines, nous avons lu un passage du livre de l'Apocalypse, un passage d'une beauté extraordinaire, un passage important, qui décrit cette nouvelle création dont Jésus est les prémices. Écoutez ce beau passage d'Apocalypse 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. » Je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car ce qui existait avant a disparu. C'est beau, n'est-ce pas? Mais est-ce vrai? Est-ce une utopie mensongère de plus? L'apôtre Paul est clair comme de l'eau de roche que si ce n'est pas vrai, nous les chrétiens sommes les plus à plaindre. Mais il est plus que clair en affirmant avec force qu'en réalité, Christ est ressuscité. Pour lui, il n'y a pas de doute, c'est vrai. Il affirme haut et fort que son message salvateur est un message historique. Il a réellement eu lieu. Nous ne sommes pas dans le domaine de mythes et de fables. Paul a écrit cette lettre au début des années 50 après Jésus-Christ, à peine 20 ans après les événements. Il affirme que Jésus a été vu par l'apôtre Pierre, d'abord Céphas, puis par les 12, et même par plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Alors ce texte de Paul est un des premiers textes chrétiens, un des textes les plus primitifs. Il date d'avant les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, donc c'est un des premiers témoignages écrits de la résurrection de Jésus. Alors si ce n'est pas vrai ce que dit Paul, Paul court un grand risque. Si un journaliste ne peut pas trouver au moins quelques-uns de ces 500 témoins, Paul a un problème. Nous ne sommes qu'à 20 ans de ces événements-là. Et la mémoire collective est encore très vive. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Je suis allé voir sur Wikipédia pour savoir ce qui s'est passé en 1992. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1992? En fait, pas grand-chose. Tant que j'ai parcouru la liste, mais l'événement le plus marquant, c'était le fait que l'Europe a fait voter le traité de Maastricht. Mais si on devait revenir à 1989, donc il y a mon illustration perpétuelle, pour ceux qui sont à l'église depuis un certain moment, vous avez déjà entendu cette illustration à maintes reprises, donc la chute du mur de Berlin. Ben là, on retrouve un événement cataclysmique, donc il y a 23 ans, qui a changé la face de l'Europe et du monde. Et on s'en souvient, n'est-ce pas? En tout cas, pour ceux qui sont plus âgés. Cela nous a marqué. Ça a marqué une génération. Ça a changé l'histoire du monde. Il y a beaucoup de témoins de cet événement-là. On se souvient de tous les détails de comment ça s'est passé. Avec l'apôtre Paul et sa lettre aux Corinthiens, nous ne sommes qu'à 20 ans de l'événement qui continue de marquer l'histoire humaine. C'est l'événement qui nous réunit ce matin. Alors pour ceux qui sont plutôt sceptiques, ils doivent expliquer la création de l'Église, le développement rapide et massif du christianisme tout de suite après cet événement. Ils doivent expliquer pourquoi tant de témoins en parlent et en sont convaincus. Pourquoi personne n'a pu contrer de manière décisive cette foi qui a changé le monde. Beaucoup d'avocats et beaucoup de journalistes au fil des années ont passé en revue les preuves en faveur de la résurrection physique et corporelle de Jésus. Beaucoup ont dit que ces preuves sont concluantes, voire irréfutables. Ce ne sont pas des preuves scientifiques. On ne peut pas reproduire ces événements. C'est une question de l'analyse des témoignages. C'est aussi une question de la fiabilité de ces textes, ces témoignages. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous recommander quelques livres à ce sujet. Les chrétiens ont différentes manières d'expliquer leur foi, pourquoi ils croient, ce qui les a convaincus en particulier. Donc j'imagine que dans cette salle, beaucoup de gens vont expliquer différemment pourquoi ils croient exactement. Certains vont parler d'une expérience, mais beaucoup vont parler de la nature raisonnable de la foi. D'un point de vue historique, la résurrection est l'événement qui fonde notre foi et qui la fonde de manière raisonnable et convaincante. Et si cet événement est historiquement convaincant et bien attesté, nous devons réfléchir aux enjeux, aux conséquences. D'autant plus que Paul nous a dit que ce message est salvateur. Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons avoir l'espérance de la victoire sur la mort, ce sont des choses de première importance. On va passer à notre troisième point. Paul essaie de nous convaincre de cela de manière sincère. C'est ce que je veux voir brièvement dans cette dernière partie. Paul argumente, me semble-t-il, de manière lucide et honnête. Alors la sincérité n'est pas la preuve absolue de la justesse d'une position. On peut se tromper de manière sincère ou être sincère et se tromper. Bien des personnes tout à fait sympathiques se sont trompées. Versets 14 et 15, Paul nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi, il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. » Est-ce que vous voyez combien Paul est lucide et honnête dans sa manière de raisonner les choses? Il reconnaît tous les enjeux. Simon, ou s'il se trompe, tout son ministère n'a pas de valeur. Pire, il reconnaît qu'il serait même un blasphémateur à l'égard de Dieu. Il serait en train de mal représenter Dieu. Et il est conscient de la gravité de tout cela, de l'énormité de ses propos. Il n'est pas juste en train de raconter une belle histoire qui croit belle, et d'une beauté ésotérique ou quelque chose de ce genre. La foi chrétienne serait vide. La foi chrétienne serait une foi mal placée et vide. Il est conscient des enjeux. Il conclut cette partie en disant que si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Paul n'est pas un libéral qui dit que même si la résurrection n'a pas eu lieu, cette histoire a quand même une beauté symbolique ou un certain mysticisme d'une beauté extraordinaire. Non, Paul, il est rationnel. Il est tout à fait cartésien. Si Jésus n'est pas revenu d'entre les morts de manière littérale, de manière physique, la foi chrétienne n'a pas de fondement et ses propos seraient cruels et blasphémateurs. Ce qui est mensonger n'est pas beau, mais cruel. Mais il conclut en disant, « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. » Ça veut dire que Jésus a vraiment vaincu la mort. La mort est morte grâce à la mort de Jésus. La vie peut être nouvelle et éternelle grâce à la résurrection de Jésus. Il y a une vraie espérance pour tous ceux qui se fient à lui, qui mettent leur confiance en lui. Pour un message clair pour tous ceux qui sont chrétiens ce matin, ne vous éloignez pas de cette foi-là. Elle vous sauve. Attachez-vous à Christ ressuscité. Ne vous éloignez pas de lui. N'édulcorez pas l'espérance de votre propre résurrection physique et corporelle. Nourrissez votre espérance en fixant vos yeux sur lui, le Christ ressuscité. Le premier fruit de la nouvelle création, c'est lui qui est le garant de notre propre résurrection. C'est cette espérance qui nous aide à vivre pour lui au temps présent. C'est cette espérance qui sera le moteur de notre témoignage. Si on veut être des témoins, c'est la résurrection qui va nourrir notre espérance et notre enthousiasme. Nous pouvons témoigner avec confiance, parce que notre foi n'est pas vide, elle n'est pas vaine. Nous ne sommes pas des faux témoins de Dieu. Christ est vraiment ressuscité. Si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, si vous n'êtes pas sûr de où vous en êtes par rapport à la foi, puis je vais vous demander de prendre le temps d'enquêter sur ces choses. Ce message est de première importance, d'une importance éternelle. Pourquoi ne pas prendre quelques heures pour réfléchir à ces choses, pour lire la Bible, pour lire un évangile par exemple? Je peux vous recommander quelques livres, demandez-moi. Après, je peux vous donner un livre qui parle de ces choses aussi. Encore mieux, pourquoi ne pas vous confier à Jésus aujourd'hui? Il suffit de venir à lui humblement dans la prière, de lui demander en toute simplicité, en toute humilité, de vous pardonner vos péchés, de pardonner vos péchés, de vous laver de vos péchés. Venez à lui et placez votre confiance en lui, le Christ ressuscité, celui qui peut nous conduire à la vie. On va prier ensemble, prions. Et si vous voulez prier pour la première fois et remettre votre vie au Seigneur dans la prière, donc je vous invite à répéter silencieusement mes paroles dans vos cœurs. Notre bon Père Céleste, merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui a vaincu la mort. Merci pour Jésus qui a pris sur lui, à la croix, le poids de nos fautes. Pardonne nos fautes. Notre Père, aide-nous à mettre notre confiance entière en Jésus. Aide-nous à nous fier à lui, corps et âme. Et merci pour l'espérance ferme de la résurrection. Merci de ce que Jésus peut nous conduire de la mort à la vie. Aide-nous à nous attacher à lui, à marcher avec lui, à vivre pour lui en nouveauté de vie. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus qui est vivant. Amen.